Je présente un travail qui a été fait avec deux collègues, Irène Jonas et Virginie Moura. Donc, dans cette étude, on s'est intéressé, comme précédemment, à la perception de la discrimination. Donc, on a utilisé les entretiens semi-directifs. Et là, on focalise, donc l'étude focalise sur les jeunes femmes. Voilà. Donc, sachant que les discriminations principalement dénoncées par les jeunes femmes sont celles liées donc à leur appartenance au genre féminin, donc à leur sexe, à leur charge familiale, y compris à leur grossesse réelle ou potentielle. Et aussi, nous sommes intéressés aux jeunes femmes qui avaient déclaré avoir été victimes de discrimination de nature raciste. Voilà. Dans un premier temps, donc nous verrons le contact avec la discrimination, avec deux traits saillants de formes de contact, et ensuite nous verrons les différents modes de défense, les différents faire face, dans un premier temps face au sexisme que les jeunes femmes ont pu rencontrer, et face au racisme. Et on verra que les choses ne sont pas tout à fait décrites, énoncées de la même façon. Donc, premier type de contact qu'on pourrait appeler un contact banalisé, le plus souvent anticipé ou prévisible face à la discrimination. Et ce contact est énoncé comme ça, particulièrement en ce qui concerne les phases d'embauche, la maternité et quand on parle des salaires féminins. Mais paradoxalement, on verra que ce qu'on appelle la préscience de ce traitement inégalitaire sur le marché du travail va engendrer un discours dépolitisé, plus proche du renoncement que de la revendication. Donc ce premier type de rencontre avec la discrimination n'est donc pas vécu avec surprise. Il relève d'un savoir plus ou moins conscient d'être inscrit, et en l'occurrence inscrite, du mauvais côté de la relation de domination qui traverse le corps social du simple fait qu'on arbore tel ou tel stigmate, être femme, être grosse, être arabe, venir de banlieue, être jeune mère, etc. Alors un exemple pour Nadia, les discriminations sexistes, elle les déclare honteuses, non acceptables, mais au-delà d'un sentiment d'indignation, aucune solution ne lui semble envisageable. Et les extraits que je vais décliner ici sont assez révélateurs de ce qu'on a pu trouver dans bon nombre d'entretiens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Malheureusement, on en parle, mais c'est comme ça, c'est comme tout, c'est comme le prix de l'essence en ce moment, donc c'était l'année dernière. Hein. On en parle, mais est-ce que ça bouge? Ça, j'en doute. Même chose dans beaucoup d'autres entretiens où, loin d'avoir, comme je disais tout à l'heure, un discours politisé, on est plus dans du renoncement, du fatalisme. Et c'est cette sorte de fatalisme qui traverse la plupart des entretiens, comme si des choses inacceptables devaient de toute façon être acceptées parce que ça faisait partie des règles du jeu. Hein, et que pour vivre sereinement, il valait mieux en prendre conscience et faire avec dès le départ. Donc, autre extrait, tu subis, on ne peut rien y changer, ce n'est pas encore mûr dans les esprits, plus tard peut-être, dans 20, 30 ans, ça aura changé. Ça évolue à chaque fois petit à petit. Je pars toujours du principe où je me dis, ce n'est rien, ce n'est pas grave, il y a pire. Voilà, là, il se concerne, on parle de sexisme. Hein. Alors, si certaines formes de discrimination n'est pas ressentie ou énoncée comme une violence, mais plutôt, comme je disais tout à l'heure, quelque chose avec quoi il faut composer, hein, c'est que ces événements, ces discours semblent faire partie du paysage et des règles du jeu, du marché du travail. Donc, il y a des discriminations qui semblent plus facilement dissibles et... il s'agit surtout de discriminations qui sont... pour l'essentiel, fortement médiatisée, et je pense notamment aux discriminations salariales entre hommes et femmes. On a constaté que dans beaucoup d'entretiens, quand cette question était évoquée, elle était beaucoup plus facilement, sans affect, sans que les choses soient vécues, enfin dites en tout cas, énoncées comme une souffrance. Donc c'est quelque chose qui est relativement objectivé, dit, qu'on peut dénoncer plus facilement que beaucoup d'autres choses. Et même si ce n'est pas ressenti comme une violence, c'est pourtant très violent, finalement, parce que c'est très structurant de la façon dont les femmes, dont beaucoup de jeunes femmes, vont se positionner sur le marché du travail, à savoir qu'elles vont incorporer parfaitement cette notion-là et elles vont l'intérioriser à tel point qu'elles vont se positionner en tenant compte de cette chose-là. Donc je vais donner tout de suite un exemple. Il y a Sandra qui pense être victime de discrimination salariale parce qu'elle est une femme. Mais pourtant, elle renonce, au moment où elle interroge, elle a renoncé à demander une augmentation parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, elle est enceinte et que donc ça ne va pas ensemble. Demander une augmentation pendant qu'on est enceinte, c'est quelque chose qui colle pas. Donc elle dit, je suis en dessous du marché, je suis quasiment au même salaire que j'avais il y a 5 ans. On ne peut pas dire que j'ai progressé. L'année prochaine, je pense que j'aurai un peu plus d'exigences. C'est vrai que là, en plus, cette année, les négociations se sont faites en janvier. Et c'est justement en janvier que je suis tombée enceinte et que je le savais. Donc j'ai dit, on ne va quand même pas être trop exigeante. Voilà. Donc le second type de contact avec la discrimination, c'est là beaucoup plus de l'ordre de la brutalité, de l'événement, de paroles qui sont blessantes, qui sont perçues comme là pour le coup directement violentes, perçues comme violentes dans l'instant. Donc elle surprend souvent les personnes, il y a immédiatement un sentiment d'injustice. Alors les choses ne sont pas, comme on l'a déjà dit, souvent elles ne sont pas, la plupart du temps d'ailleurs, employées sous le terme de discrimination, mais plutôt comme un sentiment d'injustice. Et les personnes, en revanche, les jeunes femmes, décrivent souvent les souffrances qui ont été engendrées par le contact avec ces événements-là. Alors, par exemple, Amanda raconte comment a réagi son patron lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Donc, elle était en emploi, elle a annoncé qu'elle était enceinte et elle s'est vue répondre « J'espère que c'est le dernier, combien vous voulez en faire ?» J'ai dit « Ben, mon mari, il en veut 5. » Alors là, il s'exclame « Quoi ? Je vais lui payer les putes, nous allons et je vais vous faire stériliser. » D'accord, voilà, ce sont des réflexions qu'on ne peut pas dire à un homme. Vous voyez ce que je veux dire ? On se permet des réflexions qu'on ne dirait pas à un homme, c'est clair. Donc les entretiens des jeunes femmes sont souvent traversés de d'événements comme ça. Enfin, elles racontent, encore une fois, sans parler de discrimination, sans relier ça au terme discrimination, mais pour certaines, il y a des événements assez choquants qu'elles peuvent raconter au détour de leur entretien. Et en général, c'est souvent pas en lien avec le fait qu'elles aient coché au moment des entretiens téléphoniques, de l'enquête génération, qu'elles aient coché la case « j'ai été victime d'une discrimination ». Ça, bon, là, je vais pas. Peut-être on en discutera plus tard dans la journée, mais en général, les raisons pour lesquelles les gens ont coché la case, j'ai connu une discrimination, c'est très souvent pas forcément les raisons qui font que nous-mêmes, quand elles nous racontent des événements, on a été interpellés, choqués, et on s'est dit, là, ça peut être franchement de la discrimination. Mais là, je m'éloigne un peu de ce que je voulais vous dire pour l'heure. Donc, quel que soit le type de contact, donc tout à l'heure je vous parlais de préscience, ou là à l'instant de brutalité, quel que soit le type de contact avec la discrimination, et quels que soient les différents modes de faire face qu'on va voir maintenant là, ceux qui traversent l'ensemble des témoignages, qu'il s'agisse de sexisme ou de racisme, c'est quand même le doute, la difficulté de nommer, de discerner exactement ce dont on a été victime. Donc, je ne reviens pas là-dessus, c'est la difficulté de mettre des mots comme discrimination derrière ce genre d'épreuve. Alors, les modes de défense face au sexisme. Il y a trois modes, alors que j'appellerais posture, mais pas dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que là, dans les mêmes entretiens, il peut y avoir, et pour des événements différents tout au long de la trajectoire qui nous a été racontée, il peut y avoir de la mise à distance à certains moments, quelquefois du blanchiment et quelquefois de la résistance. Donc ces trois postures ne renvoient pas à trois groupes d'individus, mais trois modes de faire face qui peuvent être rencontrés chez les mêmes individus. Donc la mise en distance prend la forme de réaction qu'on peut qualifier d'évitement. Hein, elle consiste généralement à s'éloigner purement et simplement de la personne ou du contexte perçu comme discriminatoire, et ce, à plus ou moins brève échéance, c'est-à-dire qu'on va déménager, on va changer d'emploi ou de service, quelquefois, le cheminement pour changer d'emploi, par exemple, peut être long à émerger. Ça peut être assez rapide ou ça peut prendre quelquefois plusieurs mois, voire plusieurs années. L'éloignement peut s'organiser de façon évidente ou peut transiter par une solution de repli, comme opter pour une réorientation professionnelle, se décider à ce moment-là de se replier sur la vie familiale, de se décider à faire un enfant à ce moment-là, ou plus radicalement, pour certaines, de tomber dans la dépression. Deuxième mode de faire face, c'est ce qu'on appelle le blanchiment. Il me semble ce qu'on a vraiment vu de façon un peu quantitative le plus évidemment dans les entretiens. Le blanchiment, c'est le cas où les jeunes femmes n'essaient pas de lutter contre la situation d'injustice qu'elles ont perçue, mais s'efforcent plutôt de lui trouver un sens qui leur permette de cohabiter plus ou moins bien avec le problème. Alors, soit en s'en attribuant la responsabilité, soit en justifiant ce qui s'est passé, soit même en positivant ce qui s'est passé, c'est-à-dire de donner à l'événement le statut d'épreuve qu'il a fallu surmonter, comme une sorte de bizutage, dont on va sortir renforcé et même reconnu professionnellement dès lors qu'on a été capable de le supporter. Donc là, pour accélérer un peu le pas, je vais vous donner tout de suite l'exemple. On a dû interroger plusieurs infirmières de bloc opératoire, donc c'est un monde que je ne connaissais pas et qui s'avère excessivement, apparemment, sexiste et violent, c'est-à-dire que les chirurgiens ont des mots, enfin, il nous a été raconté des choses vraiment assez, assez fortes. Et par rapport à ça, ben, on a des jeunes femmes qui disent oui, bon, mais de toute façon, moi, c'est vrai que là, j'étais pour le coup face à un événement, j'ai été un petit peu molle. C'est vrai que j'ai pas réagi ou de toute façon, les chirurgiens, ils sont vraiment stressés. Donc, c'est eux qui ont toutes les responsabilités. Il faut vraiment qu'à un moment ou un autre, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il se défoule sur quelqu'un. Bon, il se trouve que les infirmières sont là, donc bon, bah, il se défoule sur les infirmières. Si tu peux revenir en arrière. Ou alors encore en positif, c'est-à-dire que ben, finalement ils nous testent un peu, et puis finalement le bloc opératoire, c'est un endroit où il y a beaucoup de stress, et que si on n'est pas capable de recevoir à la figure soit des réflexions très sexistes, soit même des instruments, apparemment les instruments volent en bloc opératoire, et ben c'est qu'on n'a pas le caractère qu'il faut pour être à ce poste-là. Donc ça nous a même été raconté comme finalement quelque chose dont il faut sortir pour se voir reconnu dans cette profession. Donc ça, c'était le blanchiment. La troisième voie, c'est la résistance. Tout à l'heure, on en parlait. Alors, il y a, pour certaines jeunes femmes, une posture qui consiste à dire eh « ben non, mais c'est inadmissible, c'est absolument pas normal d'être traité de cette façon-là, donc on va se révolter ». Donc, ça passe souvent par de la colère. Alors, résistance, c'est une révolte qui est de l'ordre, très souvent, de l'individuel. Hein. Je n'accepte pas. Donc, je vais éventuellement m'appuyer sur un collectif de travail. Justement, je parlais des infirmières, où il y a quand même des pratiques professionnelles qui vont faire un code professionnel qui vont faire que je vais être en mesure de trouver illégitime ce que je subis, et donc je vais l'exprimer. Mais bon, le mode de la résistance, c'est pas forcément le mode le plus prégnant dans les entretiens qu'on a pu voir. Je suis à combien à peu près? Il me reste 5 minutes. D'accord. Alors, face au racisme, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a pu voir, c'est que la dénonciation du racisme, alors pas forcément encore sous le terme de la discrimination, hein, mais en tout cas, on le reconnaît beaucoup plus facilement que le sexisme. Le sexisme, c'est un terme qui n'a pratiquement jamais été employé dans les entretiens. C'est moi qui l'emploie, mais n'a pratiquement jamais employé par les jeunes femmes elles-mêmes. En revanche, le racisme, on le voit plus facilement, on le dénonce plus facilement, même si Encore une fois, on n'en est pas forcément, on s'en sent pas forcément victime. On va pas, on va raconter que ça existe, qu'on le voit, qu'on le dénonce plus facilement que le racisme. Mais on va aussi adopter des postures qui mettent à distance, voire qui blanchissent les personnes, les employeurs, les clients qui font preuve de racisme à un moment ou à un autre. Donc il va y avoir deux attitudes types. Une qui est de ne pas pouvoir se le permettre. Je ne peux pas me permettre, notamment dans des phases de recherche d'emploi, je ne peux pas me permettre de composer avec ça. C'est-à-dire, ça ne rentre pas dans mon système de pensée. Il y a du racisme, mais si je commence à me dire que j'ai pas été prise pour cet emploi parce que je suis maghrébine ou noire, etc. Voilà, je ne peux pas me permettre de faire avec ce genre de considération, donc je le mets à distance. Et deuxième attitude, c'est de diviser le groupe discriminé. Donc je vais vous donner tout de suite deux exemples. Bon, donc là, ce que je dis, c'est que par rapport au sexisme, le racisme est plus facilement identifiable ou dénonçable, dissible. Qu'on a plus de facilité à le relier à des difficultés éventuelles d'accès à l'emploi, c'est-à-dire que bon, j'ai pas été prise, on m'a dit que c'est parce que j'avais pas d'expérience professionnelle, bon, moi on me la fait pas, et ça on va pouvoir peut-être plus facilement que pour le sexisme en tout cas, le relier à du racisme. Pour autant, voilà, comme je disais, se dire victime n'est quand même pas toujours facile. Voilà, donc dire de je ne peux pas composer avec, c'est voilà un exemple. C'est des fois on y pense, c'est sûr. J'essaie de ne pas trop y penser, mais des fois j'y pense, mais je ne bloque pas dessus. C'est sûr que je ne veux pas bloquer dessus, parce que si je bloque dessus, c'est bon, je me renferme. Je ne parle plus à personne, ça ne m'apporte rien, en tout cas rien de positif. Pour moi, il n'y a personne qui va m'apporter mon emploi, l'emploi que je veux. Et enfin, deuxième posture, donc, c'est diviser le groupe discriminé. C'est-à-dire, il y a dans tout groupe des bons et des mauvais. Donc là, c'est assez proche du blanchiment qu'on a pu voir face au sexisme. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a du racisme. Mais bon, s'il y a du racisme, c'est pas pour n'importe quelle raison. C'est qu'il y a des gens, d'autres gens, qui font que il y a des gens qui n'acceptent pas une partie du groupe discriminé. Un exemple d'Alima qui nous dit « Moi, je suis marocaine, j'ai toujours travaillé et j'ai toujours trouvé du boulot. » Je me dis « Le mec, s'il est raciste, c'est bien pour quelque chose. C'est qu'on a dû lui faire quelque chose. Et du coup, il ne veut plus en entendre parler. Mais bon, s'il voit quelqu'un comme moi qui lui dit « Vous savez, on n'est pas tous pareils, c'est partout pareil, que ce soit français, musulman, chinois, ce que vous voulez, c'est partout pareil. On peut en avoir des bons comme des mauvais. » Donc là, c'est mise à distance parce que on veut aussi... diviser un petit peu les catégories de population. Donc pour conclure, et très rapidement, le ressenti face aux discriminations donc, a toujours presque maille à partir avec le doute. Donc ça, on l'a dit, je l'ai redit. Cette dimension de doute qui accompagne presque toujours le ressenti de la discrimination n'apparaît pas sans lien avec une forme d'intériorisation du système discriminatoire, et je pense notamment au sexisme, et ainsi avec une difficulté à l'identifier et à le nommer comme tel. Pour autant, les discriminations les plus relayées par les médias, notamment celles des salaires, des différences de salaire entre hommes et femmes, d'une part, et les discriminations racistes à l'embauche, d'autre part, se caractérisent par le fait que les jeunes femmes les expriment beaucoup plus facilement que d'autres. Ce qui soulève clairement la question de la légitimité sociale de telle ou telle dénonciation discriminatoire, ou au contraire, de son invisibilisation, voire de son illégitimité, qui ne sera pas sans incidence sur la perception d'une violence à laquelle les femmes pourront soit faire face, ou au contraire, ne pourront que retourner contre elles-mêmes, parce que considérées comme illégitimes. Voilà, je vous remercie.